Il ne faut pas être un expert en questions sociales, ni un spécialiste des affaires internationales pour se rendre compte que le monde est malade. Inutile d'examiner dans le détail les affaires politiques, économiques et sociales de chaque nation. Les symptômes d'un grand déséquilibre ne sont que trop évidents. Un regard sur notre monde civilisé ne peut provoquer qu'effarement, inquiétude et angoisse. Partout, ou du moins parmi les nations considérées comme les plus stratégiques, les plus influentes, les piliers de la civilisation, il y a des troubles graves, des tensions intolérables, des manifestations de foule exaspérées, des guerres et des menaces de guerre. 5 nations déjà possèdent un armement thermonucléaire, et l'on sait que dans les 15 années qui viennent, elles seront plus de 12 à être dotées du même appareil infernal. Il y a actuellement une nation sur 3 directement préoccupée par la guerre, tandis que les grandes puissances tentent d'établir ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. De plus, les mœurs se corrompent d'une manière épouvantable et alarmante. Nos journaux, nos spectacles, nos affiches ne cessent de provoquer l'homme d'une manière de plus en plus audacieuse et de l'attirer vers les formes les plus animales de sa nature, au lieu de l'aider à s'améliorer en lui inculquant le sens des vraies valeurs. En général, le mot « civilisation » suggère l'idée de progrès. Mais il faut constater que s'il y a eu progrès dans le domaine matériel et technique, il y a eu progrès plus grand encore dans le mal et dans la folie. L'homme demain atteindra peut-être les planètes les plus proches de la Terre. Mais qu'aura-t-il de plus? Et comme se le demande le penseur Michel Quast, quel sera le contenu de cet homme? À cet égard, Jésus avait déjà dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde ?» s'il perdait son âme. Dans la pensée du Christ, perdre son âme, c'est ruiner sa vie, c'est détériorer totalement son univers intérieur tout en se lançant à la conquête du monde extérieur. C'est compromettre sa vie éternelle. Quelle folie, quelle anomalie et quel échec. La maladie du monde est si évidente que ceux qui se moquaient auparavant de l'idée religieuse de la fin du monde sont aujourd'hui contraints de reconnaître que cette doctrine n'est pas dénuée de tout fondement, car les hommes ont tellement progressé dans le mal qu'ils sont capables de déclencher un cataclysme très voisin de la conception chrétienne de la fin du monde. Au début du siècle, ce que je viens de dire aurait sans doute été accueilli par quelques sarcasmes. Les prophètes de malheur ont toujours été copieusement houspillés, et souvent bien à raison. Mais de nos jours, il ne s'agit plus de prophéties, car le visage crispé du malheur n'est que trop apparent. Il ne se trouve plus personne, croyant ou non, pour contester que la situation est grave. Le monde est un grand malade. Et cette maladie n'est pas une simple crise. C'est l'aboutissement logique de symptômes précis qui doivent provoquer incessamment un accès de folie destructrice. Des symptômes dont on a négligé l'importance et dont on a par conséquent omis d'examiner les causes réelles. C'est à ce point de nos remarques que les objections vont commencer. « Je vous vois venir, dira-t-on, avec vos sermons sur Dieu et sur la religion. Tout cela, c'est du temps perdu. Vous spéculez sur des choses que personne n'a jamais vues. Un Dieu invisible, un au-delà hypothétique. Vous feriez mieux de vous occuper de la situation présente, qui, elle, n'est que trop visible. Lorsque ce monde aura retrouvé son équilibre, il sera temps alors de nous occuper de l'autre monde. » Ces objections semblent très légitimes. Et quoique ne partageant pas du tout le point de vue de ceux qui les formulent, je reconnais qu'elles comportent un élément de vérité. En effet, ce monde est tellement préoccupé par les problèmes politiques, économiques et sociaux qu'il n'a pas de temps à accorder à la méditation spirituelle. Il semble en effet que ce n'est pas le moment de donner priorité à ces choses-là. Ceux qui sont de cette opinion peuvent illustrer la situation présente par l'image d'un homme en train de se noyer. Il serait inutile et ridicule, dans ces circonstances, d'essayer de lui prêcher l'évangile, sous prétexte qu'il est en danger de mort, alors que ses poumons et ses oreilles se remplissent d'eau. Il faut d'abord le retirer de l'eau. L'évangile viendra après. Ainsi, le monde est pareillement en train de s'enliser dans ses problèmes, ses crises et ses erreurs. Vous, les hommes d'évangile, contribuez d'abord à sauver le monde, et le monde écoutera ensuite, avec plus d'attention, vos messages et votre enseignement. Comme nous le disions, ce raisonnement semble logique. mais il n'est pas réaliste. Il implique que les causes de la maladie sont essentiellement politiques et sociales. Cela est faux. Les racines du mal ne sont pas aussi superficielles. On ne penserait pas, par exemple, à rendre un seul homme ou même un seul gouvernement responsable de la guerre. Si les causes étaient si flagrantes, on n'aurait que peu de peine à les supprimer. Le fait est que le mal réside dans le cœur des hommes. Le monde a des ressources suffisantes pour satisfaire tous les besoins de tous les hommes. Mais il y a la haine. Mais il y a l'orgueil. Mais il y a le désir de dominer. Mais il y a l'amour de l'argent dont l'apôtre Paul dit qu'il est la racine de tous les maux. Mais il y a la convoitise dont l'apôtre Pierre dit qu'elle est à la base de la corruption qui existe dans le monde. Comme nous pouvons nous en apercevoir, le problème et sa solution résident essentiellement dans les relations de l'homme avec les valeurs spirituelles. Ou, pour parler comme un évangéliste, donc plus clairement, le monde est ce qu'il est parce qu'il a voulu se débarrasser de Dieu. C'est précisément ce même mal, c'est cette même cause que dénonçaient les prophètes de l'Ancien Testament lorsque le peuple hébreu était menacé ou terrassé par une épreuve, une défaite militaire par exemple, une épidémie ou quelque autre désastre. Notre monde a véritablement envoyé Dieu en exil. Il est rejeté par la société comme un intrus. Il est exilé loin de la cellule familiale, si précieuse, si vitale, au niveau de laquelle se forge ou se détériore une nation. Exilé loin de la science et de la littérature, loin du commerce, même ceux qui font profession de croire en lui agissent souvent comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de lui. Le mal est dans l'âme et c'est là que doit s'appliquer le remède. Il s'avère par conséquent que ceux qui veulent donner priorité absolue aux problèmes économiques actuels, au détriment de l'âme et de ses relations avec Dieu, sont les moins réalistes de tous les hommes. Ils me font penser à cet homme qui essayait en vain de faire démarrer sa voiture. Tout semblait pourtant en ordre. Le plein d'essence était fait, les bougies étaient propres, le niveau d'huile contrôlé. Toutes les conditions semblaient réunies pour faire démarrer le moteur. Mais il avait beau s'essouffler et pester en tournant la manivelle, aucun résultat. Pourquoi ? Tout était parfait, sauf un détail. Il avait oublié de mettre le contact. Et sans contact, pas d'étincelle. Ceux qui aujourd'hui dédaignent les causes, les choses spirituelles, ont eux aussi oublié ce détail qui peut décider de tout. Ils tournent furieusement la manivelle qui doit faire marcher le moteur de la société. Ils proposent toutes sortes de solutions, d'explications, des modifications. Mais il y a une chose qu'ils oublient. S'il n'y a pas de contact avec les valeurs spirituelles, ce sera toujours la panne. Nous pouvons à présent mieux apprécier les défauts dans l'analogie de l'homme qui se noie. Retirer un homme de l'eau exige un effort essentiellement physique, relativement facile. Mais pour retirer la société du bourbier dans lequel elle s'enfonce, il faut autre chose qu'un effort physique. C'est une entreprise extrêmement complexe. Et au cœur même du problème se trouve cette partie secrète et vitale du mécanisme social, l'âme de chaque homme. On voit ainsi que tout problème social est en définitive un problème de l'individu. Il n'y a pas de solution globale. Le seul remède valable est celui qui peut s'appliquer à l'individu. Et cet individu, c'est vous, c'est moi. C'est chacun de nous en particulier. Personne ne peut dire « cela ne me concerne pas ». Nous sommes tous concernés. Ce que nous avons dit de l'exil de Dieu par la société est vrai de l'individu. Et ce que nous avons dit du besoin de la société, nous croyons pouvoir affirmer que cela est vrai aussi de la plupart d'entre vous, chers auditeurs. Le monde est inquiet, fatigué, essoufflé, insatisfait, frustré, dépassé par ses propres réalisations comme un apprenti sorcier qui devient esclave de ses propres expériences. Il essaie de se défendre en se réfugiant dans l'indifférence, l'apathie, l'aveuglement volontaire. Le monde cherche à s'étourdir dans le présent par le travail et la recherche du plaisir. Et vous, où en êtes-vous? Le moteur de votre vie spirituelle marche-t-il bien? Ou faites-vous partie de la panne? Avez-vous une espérance qui vous rende capable de voir plus loin que votre vie? Sinon, vous n'avez pas encore réellement établi le contact salutaire. Vous faites encore partie du problème. Vous ne constituez pas encore une part de la solution. Si l'homme ne se tourne pas vers Dieu, il ne peut que s'attacher à l'homme, à ce monde, c'est-à-dire à la matière, et elle finira par l'écraser. Dieu a parlé dans la Bible. Dieu parle dans la Bible aujourd'hui, et voici essentiellement ce qu'il offre à chacun de nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Cette phrase, c'est le Christ qui l'a prononcée. Il constitue, en sa personne, l'intervention de la divinité dans les affaires des hommes. Auront-ils la sagesse de prêter l'oreille à ce qui vaut vraiment la peine d'être entendu? Il dit encore, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » C'est une invitation, une offre, un don. Pour l'apprécier, il faut d'abord s'arrêter pour faire le point. Il faut se ressaisir, reprendre son souffle et s'approcher avec confiance et espérance de celui qui parle ainsi dans les Écritures. En fait, il parle depuis 20 siècles. Et depuis 20 siècles, les hommes ont appliqué tous les remèdes à leurs maux, sauf le sien. Ils ont essayé tous les programmes, sauf le sien. Son programme, il le définit comme suit. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il est venu rendre à l'homme conscience de son âme. Il est venu refaire l'homme en l'éclairant par l'intérieur. » Oh, bien sûr, nous n'avons pas la folle prétention de donner ici la solution de tous nos problèmes économiques, politiques ou sociaux. Mais ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'une société est composée d'individus comme un édifice est formé de briques. Les murs seront solides dans la mesure où les briques seront saines. Et il n'y a pas, dans la société humaine, d'éléments plus sains, plus sûrs, plus utiles et plus énergiques que des hommes nourris des paroles du Christ.